le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise sur Radio Immo.
Et bonjour à tous et bienvenue pour cette première après-midi au MIPIM qui démarre. Nous étions déjà toute la matinée en direct de ce palais des festivals et des congrès de Cannes où se tient l'édition 2022 du MIPIM. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, après 2 ans de crise sanitaire, tout le monde se retrouve. Je peux également vous dire que c'est plutôt bien plein dans les allées, que les gens sont au rendez-vous de ce salon et on en est ravis. Et je dis « on » parce que je ne suis pas toute seule, je suis évidemment en compagnie de Sylvain Lévy-Valency. Vous êtes toujours en forme, Sylvain ?
Oui, toujours en forme. On est allé d'ailleurs, on a repris notre road trip. Je suis allé sur la croisette voir un petit peu plein de monde. Voilà. Les gens, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. On se retrouve 2 ans après, là, extrêmement intéressant.
Ça fait du bien, hein ?
Absolument.
Et on va accueillir notre premier invité pour cet après-midi. Bonjour Laurent Ternisien.
Bonjour.
Vous êtes Chief Client Officer de BNP Paribas RIM et Chief Executive Officer de BNP Paribas RIM pour le Luxembourg. On va rappeler avant tout ce qu'on fait, quel est le métier, les activités de BNP Paribas RIM.
Alors BNP Paribas RIM, c'est une filiale du groupe BNP bien sûr et même une filiale de BNP Paribas Real Estate qui fait partie des 4 métiers clés de BNP Paribas Real Estate et nous on se concentre sur l'investment management, donc proposer à nos clients, que ce soit des investisseurs privés ou des investisseurs institutionnels, des fonds ou des mandats dans le domaine de l'immobilier. On gère 30 milliards d'actifs à l'échelle de l'Europe et comme vous l'avez vu avec notre titre, on est éminemment européen avec une présence dans 8 pays en Europe, donc une proximité vis-à-vis des actifs immobiliers et une proximité vis-à-vis de nos clients. On est, je dirais, bien balancé entre 3 secteurs d'activité, 3 typologies de clientèle. Les clientèles privées avec des fonds en France, en Allemagne ou en Italie. En France, par des SCPI, des OPCI, où on reviendra peut-être dessus, d'autres typologies de produits qui représentent 1/3 de nos activités, donc 10 milliards sur les 30 milliards. 1/3 sur des fonds avec des investisseurs institutionnels et le dernier tiers avec des investisseurs institutionnels et c'est là des mandats ou des joint ventures pour le compte de ces investisseurs institutionnels, donc des solutions un peu plus ad hoc.
Alors, pardon, c'est intéressant ce que vous dites parce que quand on voit le volume justement que vous gérez, ça vous place sur le podium
Absolument. Au niveau européen, au niveau acteur européen, ça nous place dans les 15 premiers.
Dans les 15 premiers, 15 bien sûr.
Premiers fund managers en Europe.
C'est très significatif.
Oui, absolument. Cela dit, je pense que dans nos mondes, on se concentre beaucoup sur l'AUM, les Assets Under
oui,
Management.
Bien sûr, oui.
En même temps, ce n'est probablement pas la meilleure mesure qui puisse être pour une entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de bien servir nos clients, de leur délivrer une bonne performance et de délivrer aussi à nos investisseurs, nos actionnaires, une bonne performance.
C'est très clair.
J'allais vous demander, puisque vous avez une expertise particulière au Luxembourg, notamment, dont vous êtes Chief Executive Officer, est-ce que c'est très différent de la France ?
Alors, non, maintenant, je pense que, donc je vous disais, on est présent dans 8 pays, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, le UK, la Belgique, le Luxembourg, effectivement, l'Espagne. Il y a maintenant de plus en plus de convergence sur la manière d'opérer entre les différents pays. On a choisi, nous, de mettre au Luxembourg une plateforme. Donc, on a 350 personnes chez BNP Paribas RIM, une 30aine maintenant qui sont basées au Luxembourg. Et le Luxembourg est notre plateforme pour les fonds institutionnels pan-européens. C'est important parce qu'il y a un écosystème maintenant au Luxembourg, une communauté avec les conseils, avec les legal advisors, avec les différentes personnes qui fait que c'est un écosystème tout à fait intéressant pour développer des fonds pan-européens qui sont reconnus par des investisseurs européens mais aussi d'autres parties du monde.
Comment s'est passée l'année 2021 pour vous ? Est-ce qu'elle a encore été marquée du sceau de la crise sanitaire ou est-ce que la reprise a été, comme dans l'immobilier, au rendez-vous ?
Alors, si je commence par les aspects plus clients, L'année 2021 était une bonne année pour nous en termes de levée de capitaux, juste pour donner quelques éléments chiffrés. On a levé 700 millions d'euros auprès d'investisseurs particuliers dans nos véhicules SCPI, OPCI et autres. Donc une belle année. Et puis 500 millions dans nos fonds institutionnels. Et on a mis en place 4 nouveaux mandats avec des investisseurs institutionnels également. Donc une très belle année côté client. Côté investissement, puisqu'il faut qu'on investisse les capitaux qui nous sont donnés. Là aussi, encore une bonne année, puisque 2,5 milliards de ventes et d'achats d'immeubles pour BNP Paribas, encore une fois à travers toute l'Europe, des opérations assez significatives. Et donc, tant côté client que côté investissement immobilier, une année qui a été...
En fait, on se rend compte que c'est une classe d'actifs qui a très bien résisté.
C'est une classe d'actifs qui a très bien résisté à la crise Covid, qui est réputée pour bien résister aussi périodes d'inflation.
Comment vous l'expliquez, cette résistance? Est-ce que c'est de la résilience de l'actif? Elle est liée à la nature même de l'actif, au fait que c'est un immobilier de conservation, entre guillemets, ça abrite la liquidité? Comment vous l'attribuez, le comportement de ces levées de fonds considérable auprès des particuliers comme auprès des institutionnels?
Les caractéristiques de l'immobilier qui sont à la fois un produit qui délivre un rendement récurrent sous la forme des loyers que l'on collecte, et ça, ces loyers, on a continué à les collecter durant la crise Covid. On a fait des aménagements avec certains locataires pour être bien sûr que tout allait bien, mais on a continué.
Vous les avez accompagnés?
On a accompagné le locataire, évidemment, mais on a continué à collecter nos loyers et donc à être à même de délivrer un rendement locatif récurrent à nos investisseurs. Et puis, il y a également cette dimension de rendement en capital avec l'évolution des valeurs qui vient complémenter le rendement locatif et qui font de cette classe d'actifs une classe d'actifs qui se comporte bien et qui par rapport aux actions ou aux obligations qui ont aussi, il faut bien le dire, en particulier le marché actions, beaucoup plus de volatilité quand l'immobilier a la tradition d'être aussi une classe d'actifs
et
relativement stable.
D'abord une volatilité assez stable, ça c'est vrai, tout à fait. Même si les taux de rendement ne sont pas forcément plus élevés, bien évidemment, mais il y a aussi le fait que, est-ce que dans la vision des Français, je parle de la France, il n'y a pas une espèce de rapport très étroit avec l'immobilier qui fait que finalement, toute crise confondue, depuis les années 60, on voit que c'est une classe d'actifs très résiliente, voilà, et que ça reste un choix important. Puis là, je voudrais compléter ma question par le fait que, vous savez, les fameux zinzins, vous savez, investisseurs institutionnels, est-ce que ça vous étonne que massivement, ils reviennent sur le logement résidentiel?
Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Les caractéristiques de l'immobilier, on en a parlé, effectivement, c'est un produit qui résiste bien, en général, aux crises. Il y a une dimension qui est importante, surtout dans les années qui vont venir. C'est probablement, au sein des produits d'investissement, celui qui... résiste le mieux quand il y a de l'inflation. On l'a vu, BNP Paribas, c'est 60 ans d'histoire l'année prochaine. On va fêter notre 60e anniversaire, donc on a un peu d'historique et on connaît un peu des périodes où il y a une inflation plus forte. Et du fait de l'indexation des loyers sur l'inflation, dans la plupart des cas, à travers le monde entier d'ailleurs, effectivement, c'est un produit qui a plutôt tendance à bien résister à l'inflation.
Alors justement, le fait que la classe d'actifs résidentielle devienne bankable aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, ça vous étonne ou...
Non, ça a été une classe d'actifs qui a toujours été, si on revient dans le temps, effectivement, les zinzins comme les particuliers ont toujours eu un appétit pour du résidentiel et c'est important de mixer les produits, que ça soit du bureau, que ça soit de commerce, même aujourd'hui, que ça soit de la logistique, que ça soit, on a une expertise très forte, nous, en immobilier de santé, que ça soit la santé, que ça soit des classes d'actifs qui sont de plus en plus différentes, c'est important de les mixer ensemble. Pour le résidentiel, évidemment, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement profonde en termes de taille de marché. C'est une classe d'actifs qui, même si les rendements locatifs sont plus faibles en général que ce qu'on connaît ailleurs, qui est encore plus résiliente, encore moins volatile probablement que les autres classes d'actifs. Et puis, on loge des gens.
Mais est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte, à cause de la pandémie, la crise sanitaire, que justement, c'était une classe d'actifs sur laquelle, effectivement, il était prudent de revenir? Parce que, effectivement, le tertiaire a quand même été sérieusement ébranlé par cette crise. On l'a vu, bien évidemment. Alors, toutes les foncières ne sont pas égales par ailleurs, puisque d'autres ont mieux résisté par rapport à ça. Mais est-ce que, justement, ce mouvement fait que, quelque part, on se rend compte, on a pris conscience qu'effectivement, c'était, effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs, une taille de marché beaucoup plus intéressante et beaucoup plus stable.
Oui. Juste peut-être un mot sur le bureau, parce qu'effectivement, on a entendu beaucoup de bureau bashing ces dernières années.
C'est vrai.
Dernières années, avec le télétravail, etc. Nous, on a encore une forte conviction sur l'immobilier de bureau pour les années à venir. On a même d'ailleurs un fonds qui est dédié au bureau dans les grandes capitales européennes et qui marche plutôt bien, qui est un fonds avec une forte composante RSE. Puisque tous les immeubles que l'on achète ont des labellisations très fortes. Donc c'est ce qu'on appellerait une stratégie best in class en termes de sustainability et d'éléments verts dans les immeubles. Et on croit beaucoup à l'immobilier de bureau encore pour les années à venir, comme lieu d'échange. Donc certes, peut-être que les gens auront besoin de venir moins souvent au bureau, mais quand ils viennent au bureau, ils auront besoin probablement de plus d'espace par bureau, le meuble bureau. Quand on pense que ces dernières années, on avait un peu tassé les gens dans les immeubles de bureau, on va retrouver un peu d'espace. On a besoin de plus d'espace commun. Et puis, il ne faut pas oublier une dernière chose, c'est qu'il y a une croissance de l'emploi tertiaire qui continue à s'opérer. Et donc, le bureau va rester une des classes d'actifs importantes. Pour se résumer, aujourd'hui, le bureau représente à peu près 50% de l'univers d'investissement immobilier. Donc, ça va le rester. À l'inverse, vous avez parlé donc du résidentiel et effectivement, c'est une classe d'actifs importante. Il y a des pays où ça a toujours été une classe d'actifs fondamentale. Je ne reviens pas dans les années 70 en France, mais aux Pays-Bas, tous les investisseurs, les zinzins, comme vous les appelez, ont autour de 30% d'immobilier résidentiel. En Suisse aussi, on a des marchés où le résidentiel a toujours été une part prépondérante des allocations d'actifs. Et c'est normal.
En Allemagne aussi.
En Allemagne un peu, à travers essentiellement les sociétés foncières cotées. En France, ça avait disparu un peu et c'est normal que ça revienne avec différentes formes parce que finalement, on parle du logement, mais où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'un fonds que l'on va dire plus opportuniste qui achète des terrains pour construire du logement, c'est la même chose que d'acheter des immeubles haussmanniens? Certes non. Est-ce que du senior living ou de la résidence étudiante, c'est aussi du résidentiel? Donc on voit du co-living aussi, on voit des formes de résidentiel de plus en plus larges aussi.
C'est très clair.
Vous parliez de valorisation tout à l'heure et de RSE. On est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, un immeuble de bureau notamment doit impérativement être vertueux et performant pour garder, ne serait-ce que garder, quitte à gagner de la valeur?
Oui, il y a de plus en plus d'éléments qui vont prouver que la RSE, qui était au départ plutôt prévue pour limiter les risques, pour être honnête, chez beaucoup d'acteurs, est maintenant un sujet qui touche à la performance. Il y a des études qui montrent qu'à la fois on a des loyers plus élevés, à la fois on a moins de vacances, à la fois on peut relouer plus rapidement ces immeubles, on peut en général financer moins cher ces immeubles, fait que ça a une traduction directe aussi sur la valeur des immeubles. Mais je pense que là où l'industrie, il ne faut pas qu'elle se trompe, c'est que ce n'est pas tellement finalement d'acheter les meilleurs immeubles qui est important, surtout pour nous qui gérons des immeubles et pour le compte d'investisseurs, mais plutôt d'essayer de les améliorer. Il ne faut pas oublier finalement 98% du parc immobilier, il est déjà construit. Et il vaut mieux s'intéresser à ces 98% déjà construits et à les améliorer. Pour reprendre la terminologie anglo-saxonne que je disais, au lieu d'avoir une approche simplement best in class, d'avoir une approche best in progress, de faire progresser les immeubles, c'est ce que l'on fait sur la plupart de nos fonds, plutôt que simplement de s'intéresser à construire des nouveaux immeubles. Donc améliorer, c'est fondamental. Et aujourd'hui, nous, on a une ambition très forte dans ce domaine, puisque 90% de nos fonds immobiliers ouverts aux investisseurs vont avoir, à l'horizon 2025, mais ça sera 85% à l'horizon 2022, donc maintenant, une démarche RSE forte.
Dernière question.
Ça ne concerne ça que les bureaux où vous
pas
parliez
du tout.
Du secteur tertiaire qui se développe. On sait que la logistique est en pleine explosion,
absolument,
par exemple.
Absolument. On a un fonds à impact climat dans lequel une des premières acquisitions, c'est un entrepôt logistique, où à travers une meilleure isolation, des panneaux solaires, des tas d'actions que l'on a prises, on améliore très significativement la dimension RSE. Il ne faut pas non plus oublier la dimension sociale. On parlait logement. Par exemple, on est en train de lancer un nouveau produit qui est tourné vers le logement avec une dimension sociale très forte par rapport aux locataires.
Merci beaucoup. Laurent Ternisien d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Chief Client Officer de BNP Paribas RIM et Chief Executive Officer de BNP Paribas RIM Luxembourg. C'était un plaisir de vous recevoir cet après-midi.
Absolument.
Merci Sylvain.
Et d'une clarté, j'aimerais bien que ceux qui font de la gestion d'actifs nous parlent aussi clairement et aussi précisément.
Merci beaucoup.
Merci Laurent.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize sur Radio Immo.